Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. L'intelligence artificielle et les robots sont déjà dans nos vies pour le pire, entend-on souvent, mais aussi pour le meilleur. C'est le cas en médecine. Les professionnels de santé s'intéressent de plus en plus à l'utilisation du robot auprès des enfants autistes ou souffrant de handicaps comme la trisomie. Faire intervenir un tiers, neutre, comme le robot, entre ces enfants et leurs compagnons de jeu ou des professionnels, c'est leur permettre de bouger, d'apprendre et de communiquer de manière plus fluide, avec moins de pression. Leka, c'est un de ces petits robots qui est déjà testé dans une quarantaine de centres éducatifs dans le monde, du Canada en passant par la Malaisie, l'Australie, mais aussi la France, bien sûr, puisqu'il a été développé par une start-up française. Je suis donc allée rencontrer Ladislas de Toldi, l'un des cofondateurs d'un petit engin à la fois très efficace et très sympathique.
Alors Leka, c'est un petit robot sphérique de 18 cm de diamètre, donc à peu près la taille d'une balle de handball, qui est blanc, qui a une sphère transparente, qui est très mignon, qui a un petit écran avec des yeux et qui sourit, et qui change de couleur, qui se déplace et qui réagit aux interactions que vous avez avec lui.
Voilà déjà 8 ans que Ladislas de Toldi a imaginé Leka. C'était pendant ses études d'ingénieur. Son professeur de design était le papa d'un petit garçon autiste. C'est donc d'abord par son biais, puis au contact des professionnels, qu'il a appris à comprendre le syndrome d'Asperger.
Au départ, c'est surtout une difficulté à analyser tout ce qui est stimulation sensorielle. Donc c'est des enfants qui vont être hypersensibles ou hyposensibles au bruit, à la lumière, à la chaleur, au toucher et ainsi de suite, qui donc vont ou trop sentir des informations ou être complètement hermétiques à d'autres stimuli extérieurs. Comme on interagit avec le monde qui nous entoure, que ça soit les objets inertes, les animaux ou les personnes par nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, si ça ne marche pas, on se retrouve bloqué et coupé du monde, en fait.
Des couleurs, bientôt de la parole, des capteurs sensoriels, Leka interagit en douceur.
Quand je joue, ça fait danser le robot. Donc là, par exemple, ce qui est rigolo, c'est qu'on utilise la gamme pentatonique, donc les touches noires sur un piano, ce qui fait qu'on ne peut pas faire de fausses notes, on ne peut pas se tromper d'une note à l'autre. Et donc c'est à la fois plus agréable pour l'enfant, mais surtout plus agréable pour les parents et les professionnels qui vont... Ils vont l'écouter toute la journée.
Le robot sphérique n'est pas le seul sur ce créneau. Il y a aussi en France Nao, un robot humanoïde qui fait l'objet de nombreuses études sur les enfants autistes au centre hospitalier de Nantes. Mais Nao est beaucoup plus cher et plus complexe à manier. Les cas plus simples et robustes visent aussi les particuliers. Comme Najib Louahem, il habite Strasbourg et il est le papa d'une petite Anna qui a 5 ans et qui est trisomique. Il a découvert par hasard les cas et voilà déjà 2 ans qu'il teste avec bonheur les applications de cette boule intelligente. Sa fille souffre de retard mental, mais aussi d'insuffisance musculaire. C'est avec Leka qu'elle a appris à bouger.
Dans un premier temps, donc, Anna ne marchait pas beaucoup du fait de son hypotonie musculaire. Et Leka étant un robot donc, rond, amusant, lumineux, qui roule, ça l'a attiré comme un aimant vers ce robot qui roulait. Et donc, on a pu jouer à plein de jeux comme à cache-cache. Et donc, ça lui a permis de se mobiliser et à marcher et à un moment courir derrière.
Autant dire que la version test de Leka fait déjà presque partie de la famille.
On l'a emmené cette année à la boule et Leka nous a accompagnés parce que Anna voulait emmener Leka avec elle, jouer avec et l'emmener à la plage. Donc on a eu de belles photos de Anna et Leka à la plage. Et du coup, Anna a pu aussi emmener Leka dans le club enfant dans lequel elle était inscrite pour s'amuser. Et donc les enfants en sont également tombés complètement amoureux. Hein. Je pense à une application qui s'appelle le Dance Freeze. Hein. C'est un peu comme 1, 2, 3 soleil, c'est-à-dire Leka se met à danser, à rouler avec une musique qui l'accompagne. Et lorsqu'elle s'arrête et qu'elle devient bleue, les enfants doivent se figer. C'est un jeu éminemment ludique qui amuse énormément les enfants et qui leur permet comme ça de jouer tous ensemble.
Bouger, interagir avec des enfants de son âge, avec l'orthophoniste ou l'ergothérapeute, Leka facilite aussi l'apprentissage des couleurs, des sons, les classifications.
Donc là, par exemple,
pointe le sel.
Le robot demande à l'enfant de pointer sur l'écran un objet. Donc là, c'est les mots avec une seule syllabe. Donc là, c'est le sel. J'ai mon renforçateur qui est mis après. Et donc là, j'ai de la voix pour que la consigne soit non pas donnée par le professionnel, mais par le robot.
Pas d'émotion, pas de stigmatisation. Le robot est assez prévisible, donc rassurant pour accompagner les apprentissages.
Lui est très neutre. ils ne jugent pas. Alors dans les choses rigolotes que nous on a découvertes, c'est que au début quand on se trompait, par exemple on choisissait la mauvaise couleur, on avait un buzzer qui faisait bzzz en disant que c'était pas bon. Et on s'est rendu compte qu'en fait il y a des enfants qui préféraient se tromper parce que le son du buzzer leur était agréable. Donc ça on a retiré aussi. Donc quand on se trompe, il se passe rien parce qu'on veut pas renforcer un comportement négatif. Donc c'est plein de petites choses comme ça qu'on a appris au fur et à mesure, mais pour en faire un outil qui est vraiment le plus simple possible pour l'enfant. Là le robot est vert, je dois choisir le vert, maintenant il est violet, si je me trompe, on voit qu'il ne se passe rien. Donc je réappuie sur le violet, le rouge, et à ce moment-là je me renforce.
Autant de programmes qu'on appelle en bon français des Serious Games, entièrement développés grâce aux idées et aux retours des professionnels qui travaillent avec les enfants autistes. Mais l'ECA n'a pas vocation à remplacer l'humain. D'ailleurs, on peut dire qu'il aura entièrement accompli sa mission lorsqu'il ne sera plus d'aucune utilité à l'enfant.
Pointe la veste.
Alexa began with Amazon Echo. Introducing the world to new voice-forward experiences and enabling
et beaucoup plus controversée est l'utilisation au Royaume-Uni de l'enceinte connectée d'Amazon Alexa. C'est le système de santé publique, le fameux NHS, qui a signé un partenariat avec la firme américaine, avec pour but affiché de désengorger les salles d'attente des cabinets de généralistes. Autant dire que l'initiative suscite beaucoup de critiques. Doit-on confier l'expertise médicale à une simple machine? Et qu'en est-il de la confidentialité des informations consignées dans le carnet de santé? À Londres, Marie Billon.
Alexa, what are the symptoms of chickenpox?
Un journaliste de la BBC demande à Alexa quels sont les symptômes de la varicelle.
According to the NHS website, chickenpox starts with red spots.
La réponse est immédiate et elle est fiable. Alexa va chercher ses informations sur le site internet du NHS, le National Health Service, le système public de santé britannique. Et c'est bien le but, selon Matt Hancock, le ministre de la Santé, au micro de la BBC.
Les gens demandent des conseils médicaux à Alexa. C'est ce que font des millions de foyers dans ce pays. Ce que je veux, c'est qu'ils reçoivent les meilleures réponses possibles.
Seuls les détenteurs de l'enceinte intelligente d'Amazon ont droit à ce service. Le gouvernement britannique est donc en discussion avec Microsoft, notamment pour multiplier les plateformes. Ce qui ne réjouit pas tous les médecins, car un appareil intelligent ne remplace pas un professionnel, dit la docteure Hélène Stokes-Lampard à la BBC.
L'intérêt d'aller voir un professionnel, c'est qu'il ne fait pas qu'écouter ce que vous dites. Il considère l'individu en entier. Un médecin a accès à votre dossier et peut prendre en compte tout ça, sans parler de l'expérience qui aide bien sûr beaucoup.
En parlant de dossier, l'une des plus grandes inquiétudes générées par Dr Alexa est justement la protection des données médicales. L'assistant personnel de la firme américaine n'a pas accès au dossier médical, c'est un fait. Mais Amazon enregistre sur son cloud tout ce qui lui est dit. Même si le géant américain promet qu'il n'est pas en train de créer des profils médicaux, qu'il ne revend pas ses informations à des laboratoires ou à un tiers, Dr Alexa ne prête pas de serment d'Hippocrate, alors certains docteurs s'inquiètent. Demander à Alexa comment arrêter un saignement de nez est une chose. Un ado qui pose une question gênante au haut-parleur familial ne peut pas être certain que ses parents ne vont pas écouter ça plus tard. Le problème est le même avec la recherche dans l'historique de l'ordinateur. Les professionnels de la santé restent donc sceptiques.
Liebe Europa, vive l'Europe, long live Europe. Thank you.
Les députés européens vont examiner à la loupe et entendre à partir d'aujourd'hui les nouveaux commissaires européens, l'exécutif de l'Europe. À leur tête, une femme allemande, ancienne ministre des armées, mère de 7 enfants, Ursula von der Leyen, une pragmatique, une européenne qui fait face à sa première polémique et dont Béatrice Leveillé nous fait le portrait.
Ursula von der Leyen est allemande, mais elle est aussi très européenne, comme l'explique Laurent Varzoulet, professeur d'histoire européenne à l'université de la Sorbonne.
Bon, elle a un parcours essentiellement allemand, mais en fait, elle a une personnalité européenne, puisque c'est la fille d'un haut fonctionnaire de la Commission européenne. Et du coup, elle a passé les 11 ou 12 premières années de sa vie à Bruxelles. Elle connaît bien le français, l'anglais. Donc c'est une personnalité déjà européenne par son éducation. Et après, quand elle était ministre des armées en Allemagne, Elle a également donné quelques discours à tonalité pro-européenne en faveur d'une armée européenne, par exemple. Disons qu'elle a manifesté un engagement européen ancien.
Sa désignation à la tête de la Commission européenne avait suscité de nombreuses critiques en Allemagne. Des critiques qui s'expliquent parce qu'elle s'est battue pour la défense européenne et le droit des femmes à travailler et à avoir des enfants. Laurent Varzoulet.
Elle a fait passer une loi, par exemple, pour construire beaucoup de crèches, pour renforcer les congés maternité, paternité. Et ça, en fait, chez une partie des conservateurs, peut-être plus qu'en France, il y a cette vision selon laquelle la femme peut cumuler carrière et une vie de famille, mais pas quand les enfants sont tout petits. Donc quand Ursula von der Leyen, qui elle-même d'ailleurs a 7 enfants, est devenue ministre, ça a suscité des interrogations à droite pour ces questions de loi, et aussi parce que, comme elle essayait de combiner vie familiale et vie professionnelle, parfois elle avait un emploi du temps un peu particulier. Elle pouvait partir au milieu de l'après-midi pour aller à une fête d'une de ses filles, alors ce qui l'empêchait pas de travailler par ailleurs, mais avait créé quelques remous.
La présidence de la Commission consiste à arbitrer les desiderata des États membres, un job impossible. Mais pour Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, Ursula von der Leyen est capable de relever le défi.
Elle est incontestablement dynamique, elle a des idées, elle partage avec nous, Français, des idées auxquelles nous sommes attachés. On veut exister davantage sur la scène internationale, on veut défendre davantage nos intérêts, et pas seulement nos valeurs, qu'il faut aussi préserver. Et bien sûr, pour cela, de temps en temps, il faut s'affranchir des États membres. Je crois qu'elle saura le faire, parce que c'est une femme de caractère. Et en plus, elle a composé une commission à quasi-parité entre hommes et femmes. Et ça, ça va changer beaucoup de choses dans la gouvernance de l'Union européenne, qui sera vraisemblablement plus subtile, plus intelligente, et on attend d'elle beaucoup.
En attendant, Ursula von der Leyen va devoir défendre son équipe devant un Parlement européen qui a déjà annoncé son hostilité à un des 27 portefeuilles, celui qui inclut la migration et la protection des frontières et s'intitule « Protection du mode de vie européen ».
Mettre côte à côte migration et protection du mode de vie européen, l'association dérange plus d'un eurodéputé qui voit là un amalgame dangereux. Doit-on comprendre les migrations comme une menace pour nos valeurs? Pas du tout, a répondu la présidente de la Commission dans une tribune publiée hier soir dans plusieurs journaux européens. Par valeurs européennes, elle entend état de droit, démocratie et liberté. Affaire à suivre. Et c'est de l'histoire avec un grand H dont nous allons parler maintenant. Voilà déjà 2 ans que les Albanais peuvent aller consulter leur dossier auprès des archives de l'ancienne police secrète. 30 ans après la fin de la dictature d'Enver Hoxha, un système brutal qui a fait mourir plus de 6000 personnes et qui a envoyé dans les prisons et les camps de travail 100 000 personnes. À Tirana, Louis Seyé a suivi un homme qui a passé 26 ans de sa vie derrière les barreaux en raison de ses opinions politique. Il a préféré se confronter à son passé accompagné de sa petite fille.
Ce dossier, c'est une réminiscence des événements et des drames de ma vie. Parce que moi, je veux dire, ça fait 68 ans que je vis avec ces malheurs que l'époque m'a fait subir. Et pendant longtemps, je ne savais pas qui a fait quoi, ni comment, ni pourquoi une telle tragédie est arrivée à cette nation.
Les mains de Jemal Bali sont quelque peu tremblantes. Pour la première fois de sa vie, il tient son dossier. Des feuillets tamponnés, signés ou raturés qui le qualifient d'agitateur anticommuniste. Ces documents l'ont privé de liberté pendant un tiers de sa vie. C'est avec sa petite fille Florida qu'il découvre les noms de ceux qui l'ont surveillé ou dénoncé.
Ça m'intéresse beaucoup de voir ces documents parce que mon grand-père a passé 26 années de sa vie en prison. Et sa fille, ma mère, a souffert des mêmes peines. C'est un passé familial avec lequel j'ai grandi. Et je suis toujours curieuse d'en savoir plus.
L'Albanie n'est sortie de la dictature qu'au début des années 90. Presque 30 ans se sont écoulés, mais l'aspect répressif de ce passé totalitaire reste toujours tabou. Si Jemal Bali peut aujourd'hui consulter son dossier, c'est grâce au courage et à la persévérance d'anciennes victimes. Ainsi, Simon Mirakai s'est longtemps battu pour la création de la Haute Autorité des Archives de la Sigurimi, la police secrète du régime communiste. L'institution n'a commencé ses travaux qu'en 2017, mais c'est déjà une victoire pour cet ancien ennemi du peuple.
C'est difficile de trouver dans le dictionnaire un mot qui correspond pour décrire ce régime. Mais on peut dire que ça a été un régime criminel. Moi-même, je suis né en prison et j'ai été interné pendant 44 ans. Pour notre famille, l'enfermement a commencé en 1945 et j'ai été libéré le 4 juillet 1989.
En isolant son pays du reste du monde, le dictateur Enver Hoxha a imposé un régime de terreur à une population de moins de 3 millions d'habitants. 6 000 personnes exécutées, 100 000 internés dans des camps de travail, 35 000 prisonniers politiques. Sous la dictature, les Albanais vivaient dans l'angoisse de voir leur vie basculer. Ils avaient surtout une peur panique de la Sigurimi et ses quelque 15 000 informateurs. Etleva Demolari dirige aujourd'hui la Maison des Feuilles, l'ancien siège de cette police secrète située en plein centre de Tirana.
Nous savions que nous étions sous écoute ou bien que nous étions contrôlés, mais on ne savait pas par qui et quand. Et donc il y avait une certaine autocensure.
Ennemis du peuple, mauvaise biographie, entachés. Le moindre faux pas pouvait avoir des conséquences funestes. Retour à l'autorité des dossiers de la Sigurimi. Encore aujourd'hui, d'anciens cadres de la dictature occupent le devant de la scène politique albanaise. L'actuel président de l'Assemblée, Gramoz Rouchi, n'est autre que le dernier ministre de l'Intérieur du régime, celui qui donna l'ordre de tirer sur des manifestants en mars 1991 à Shkodra. Pour la journaliste Zurata Hamzai, il n'est pas toujours facile de travailler sur ce sujet.
Il y a encore des pressions qui peuvent être fortes. On peut être censuré d'une manière indirecte. Par exemple, on peut interdire la publication d'un fait découvert dans ces dossiers sous prétexte qu'il faut plus de preuves. Ou sinon, ces faits peuvent être sélectionnés et pour les journalistes, ça peut être difficile de travailler avec de tels éléments. Tout ça s'explique parce que ceux dont on peut dire qu'ils étaient au sommet du régime ont fonctionné avec des alliances très fortes entre les uns et les autres.
Depuis son ouverture il y a 2 ans, l'autorité des dossiers n'a reçu que 1000 requêtes individuelles. Si une nouvelle génération d'historiens regarde aujourd'hui sans tabou ce passé totalitaire, il faudra encore un peu de temps pour que la société albanaise entreprenne un vrai travail de mémoire. Selon un sondage de l'OSCE de 2016, 42% des Albanais estimaient que le dictateur Enver Hoxha avait eu un impact positif sur l'histoire du pays.
Ivan Stepanovich Konev.
Et en République tchèque, c'est une statue qui suscite débat et controverse. La statue d'un ancien maréchal soviétique provoque beaucoup de tensions entre Prague et Moscou. Doit-on la déplacer pour mieux l'oublier? Il faut dire que le personnage Ivan Konev est une figure controversée, comme nous l'explique notre correspondant Alexis Rosenzweig.
Ivan Stepanovich Konev, libérateur d'une grande partie de l'Europe et du camp d'Auschwitz pour les uns, représentant de l'oppression par le Kremlin des pays de l'Est pour les autres. Cela fait déjà plusieurs années qu'à la date anniversaire de l'écrasement du printemps de Prague de 68, la statue de bronze du maréchal soviétique est souillée de peintures et diverses inscriptions. Même vandalisme le 21 août dernier, et cette fois, la mairie du 6e arrondissement de Prague a décidé d'arrêter les frais, lassée de payer chaque année le nettoyage d'une statue devant laquelle elle avait déjà fait poser une plaque relativisant les mérites d'Ivan Konev. La proposition de déménager ce symbole a provoqué des réactions indignées à Moscou. Un ministre russe est allé jusqu'à traiter de nazi le maire du quartier qui avait osé proposer sans succès à l'ambassade russe de Prague d'installer la statue dans ses jardins. Convocation d'ambassadeur, échange d'amabilité par médias interposés, le ton monte, mais jusqu'ici, le gouvernement tchèque n'a pas encore osé intervenir dans le débat, bien que le parti communiste le presse d'interdire le déplacement du maréchal en bronze. Le sujet divise également les Tchèques eux-mêmes. Certains activistes décrits comme pro-russes par les partisans du déménagement protestent de manière véhémente contre ce qu'ils considèrent être une révision de l'histoire. Après plusieurs semaines de débats passionnés, une solution est peut-être en vue. La statue pourrait être transportée vers un cimetière militaire de Prague, vers le ministère de la Défense ou bien vers le futur musée pour la mémoire du XXe siècle, un musée en projet qui sera, à n'en pas douter, l'objet de polémiques enflammées dans une Tchéquie toujours hantée par les occupations successives, allemandes et soviétiques, subies pendant de longues années.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. À demain.